essayer de vous parler en quoi la vie de Bernadette ici a transformé notre destin. Un destin très très particulier. Pourtant, Bernadette, elle a vécu que 22 ans à Lourdes. Elle est née en 1844 et en 1866, elle est partie à Nevers. Que 22 ans pour vivre une expérience mystique et une expérience qui va avoir des retentissements absolument énormes pour notre ville. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, il va y avoir les Lourdes vont changer grâce à elle. Car en 1858, Lourdes est une ville quand même bien misérable. La mortalité infantile est extrêmement élevée. Il y a le choléra qui menace. Et la plupart des Lourdes, ils sont à peine 4000, hein, 4000 Lourdes à peu près, en 1858, ils vivent souvent d'expédients. Et si on regarde la liste électorale de 1858, on peut regarder tous les métiers de nos aïeux. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que il y a 148 agriculteurs, on peut dire, des labois. Mais la profession la plus représentée à l'époque, ce sont les tailleurs de pierre et les ardoisiers. Il y en a 207. C'est un métier qui a aujourd'hui disparu. On ne se souvient plus très bien de ce métier-là. Et pourtant, ça a été le métier principal de nos ancêtres, le travail de la pierre. Il y a des quartiers de Lourdes aujourd'hui qui sont bâtis sur ces carrières, hein, les Estonettes, etc. Et tous ces métiers... Bon, les ardoisiers, les tailleurs de pierre, ils ont eu beaucoup de travail après les apparitions. C'est eux qui ont construit la basilique supérieure, la basilique du concert, qui ont foré les tunnels du funiculaire, par exemple. Il y a eu beaucoup de travail. Et puis après, c'est après la Première Guerre mondiale que le métier va disparaître. Et un historien... Michel Chadefaux a eu une expression sur ce grand écart qu'a subi Lourdes, sur ce destin flamboyant. Il parle, lui, de la bourgade porcatière qui devient une cité mariale. Pourquoi il dit ça? Parce que justement, en 1858, une des richesses agricoles de Lourdes, c'est la forêt de Supercarère et de ses chênes. Et ces chênes, la commune les met en location à tous les troupeaux de cochons de la région. Il y a un porcatier qui est payé par la ville, dont la mission consiste à amener au bois de Lourdes pour la glander ce troupeau, qui est composé vraiment de centaines de d'ovins qui viennent de tous les alentours. Et évidemment, les propriétaires payent pour ça. Et c'est une ressource pour la ville. Et cette ville, donc, qui vit de la glandée des cochons, entre autres, eh bien, grâce à Bernadette, elle va devenir une cité mariale. Là, il y a un grand écart absolument effarant, et c'est le destin de notre ville. Un destin donc, qui va connaître une croissance démographique, d'abord, évidemment. Au fur et à mesure des années, la ville va s'agrandir, surtout à la fin du 19e, au début du 20e. Et aujourd'hui, la ville administrativement compte pour une ville de 40 000 habitants à cause de la, évidemment, grâce plutôt aux hôtels. 4 000 habitants en 58, 40 000 aujourd'hui. Bernadette, elle a décuplé la ville. Et il y a aussi évidemment des changements, des transfigurations au niveau de l'urbanisme. C'est une ville médiévale. Comment transformer une ville médiévale pour qu'elle soit en mesure d'accueillir les foules qui vont venir en pèlerinage? Évidemment, le point central peut-être de l'urbanisme à Lourdes, c'est la gare, le train. Ah oui, ça a été une grande idée, le train de pèlerin à Lourdes. Jusqu'à Lourdes, en Occident, le pèlerinage, c'était opéré par des piétons. Compostelle en est évidemment, toujours actuellement, l'exemple type. Eh bien, nous devons à l'abbé basque, l'abbé Lapara, d'un baïonné, en 1867, alors que le train arrive à Lourdes depuis un an à peine, c'est lui qui a organisé le premier train de pèlerinage. Dans un train, il a invité 800 basques à venir à Lourdes directement. C'est le premier à avoir fait l'abbé Lapara de Bayonne. Et puis ensuite, ça a été, ça tombait bien parce que les structures ferroviaires de l'Europe coïncident avec les structures diocésaines. Donc il était très facile pour tous les diocèses d'Europe d'organiser des trains pour les malades, pour les pèlerins, en direction de Lourdes. En 1877, déjà il y a des trains qui viennent de toute l'Europe. Et à cette occasion, le pape décore de l'ordre de Saint-Sylvestre le chef de gare de Lourdes. Donc, l'importance du train, qui malheureusement aujourd'hui est en déclin. Et l'autre grand monument urbanistique qui a été capital à Lourdes, c'est la construction du boulevard. Ça a été une affaire assez conflictuelle. Avec le sanctuaire, le boulevard, il faut bien le dire, car il y avait deux logiques qui s'opéraient. La logique de la commune de Lourdes, qui voulait que les pèlerins venant de la gare parviennent au sanctuaire via le centre-ville, et puis les pères de la grotte, qui voulaient que les pèlerins parviennent au sanctuaire directement de la gare par un boulevard à construire. Alors là, il y a eu des oppositions. Le sanctuaire a trouvé un allié dans l'État. En 1875, le président de la République, Mac Mahon, signe un décret transformant ce qu'on appelle aujourd'hui le boulevard en route nationale 21 bis, ce qui fait que les propriétaires sur ce territoire peuvent être expropriés. Et c'est des sanctuaires qui vont payer l'expropriation de tous les propriétaires qui étaient le long du Labaka, la construction du boulevard et la construction du pont Saint-Michel, par l'architecte d'ailleurs, le même architecte Arlet qui a construit l'observatoire du Pic Midi. Tout cela a coûté 450 000 francs or, et c'est le sanctuaire qui a payé, parce que dans sa vision, et on peut le comprendre, c'était l'objectif était de faciliter l'accès aux pèlerins directement depuis la gare jusqu'au sanctuaire. Et puis, le troisième grand bouleversement urbanistique à Lourdes, c'est la construction du quartier hôtelier, cette rive gauche du Gave, qu'en 1858 on appelait le rive Bourrier, qui était un territoire agricole, on peut dire, assez médiocre, et qui alors là a connu un destin absolument incroyable, puisqu'il est devenu une chose quand même assez unique en France, c'est-à-dire une sorte de lotissement d'hôtels, 17 000 chambres, je crois, les unes à côté des autres. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut pointer. Donc, transformation des bourgades, transformation de la ville, et puis aussi une petite ville qui va être quand même célèbre dans le monde, qui va connaître une notoriété absolument exponentielle. D'abord par les livres, je ne citerai pas tous les écrivains qui ont écrit sur Lourdes. Le premier d'ailleurs, avant les apparitions, et je voudrais en parler, juste de dire deux mots, c'est Victor Hugo, qui en 1843, donc bien avant les apparitions, il est dans la diligence, il ne fait que traverser Lourdes, et qui fait halte à la place Marcadale, la diligence en direction de Cotteret, où il va prendre les eaux, et Victor Hugo descend, il regarde autour de lui, il remonte dans la diligence, il prend son carnet, et il écrit Lourdes, point, arrivée magique. Bon, et après les apparitions, de grands écrivains, même si ils vont avoir des positions négatives par rapport à Lourdes comme Zola, mais il y en a bien d'autres qui ont écrit sur Lourdes. Évidemment, le plus prolifique, c'est Henri Lasserre, qui est un peu oublié aujourd'hui. Henri Lasserre, ça a été un des plus gros best-sellers de la fin du 19e siècle grâce à son ouvrage qui s'appelle Notre-Dame de Lourdes. Et Henri Lasserre va publier 148 éditions de son ouvrage dans tous les pays du monde. C'est lui qui financera les premiers abris, la rotonde, qui s'appelait la rotonde, au sanctuaire. Je passe vite sur les livres pour me concentrer sur un sujet moins connu, c'est les photos. Évidemment, Lourdes a été mitraillée depuis ces temps-là. Par exemple, la collection de cartes postales sur Lourdes, je peux vous dire que c'est un ensemble documentaire absolument extraordinaire, puisqu'on voit toutes les transformations architecturales au fur et à mesure des années qui s'opèrent dans la ville, grâce à toute cette industrie photographique qui vend les cartes postales. En 1958, l'année du centenaire, la Poste de Lourdes, donc toute rénovée, elle a franchi 12 millions de cartes postales. Cette même année, en 1958, un très grand photographe vient pour Paris Match, Henri Cartier-Bresson. Je m'arrête deux secondes. Henri Cartier-Bresson, c'était un très très grand photographe, et c'était un compagnon du Parti communiste. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'il vienne à Lourdes. Paris Match lui demande, pensant qu'il va refuser, il accepte. On lui demande, mais pourquoi vous acceptez? Ses amis communistes sont étonnés, et il répond, Lourdes, c'est populaire. Et donc il vient à Lourdes, fait son reportage, et qui sera publié dans Paris Match, qui sera la une de Paris Match en 1958. Ils font une agence qui s'appelle Magnum, qui existe toujours actuellement. Alors là, c'est une agence de reportage photographique de très très haute qualité. Les meilleurs photographes du monde sont chez Magnum. Vous tapez aujourd'hui sur leur site internet, vous pouvez le faire à Lourdes. Vous avez 650 photos qui sortent. Vous tapez Toulouse, vous en avez autant. Vous tapez Bordeaux, vous en avez à peu près autant. C'est vous dire la notoriété de Lourdes. On a autant d'images dans cette agence que Bordeaux ou Toulouse. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de Palois, non. Vous tapez Pau, il y en a 70, pour vous donner une échelle. Et enfin, je terminerai par là. Vous avez parlé des répliques de la grotte, n'est-ce pas? Alors ça aussi, ça c'est quelque chose de formidable, parce qu'à mon avis, c'est unique. Je ne connais pas un autre lieu de pèlerinage au monde, dans n'importe quelle religion, où le lieu du pèlerinage soit exporté dans tous les pays du monde. Et cette grotte de Massabielle, n'est-ce pas, qui en 1858 amassait à ses pieds tous les bois charriés par le gave, que les miséreux venaient ramasser, eh bien cette grotte-là, elle est dans absolument tous les pays du monde, produit à diverses échelles, plus ou moins fidèlement, et d'ailleurs le plus fidèlement possible, vous savez qu'elle est reproduite, et bien à la Cité du Vatican. Dans les jardins du Vatican, au sommet du Vatican, il y a une réplique à l'identique de la grotte Massabielle, avec de l'eau, la vraie eau de Lourdes qui coule. Et ça, ça symbolise bien, justement, l'importance qu'a eu Lourdes aux yeux des papes du Vatican. Là, je parle avec sous notre contrôle, parce que, évidemment, les papes n'ont pas oublié ce qu'a dit Bernadette. Elle a dit, la dame m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Et vous savez que c'était un dogme qui avait été promulgué 4 ans auparavant. Donc, les papes y ont vu le contre-saint céleste, n'est-ce pas, de leur... du dogme a été dicté 4 ans auparavant, et c'est pour ça qu'ils n'ont eu de cesse que de combler de faveur le sanctuaire de Lourdes. Je vous remercie.